RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, l'hôpital public en France est malade. Manque de moyens, manque de personnel, cure budgétaire à répétition ont paupérisé un des systèmes de santé les plus plébiscités au monde. La qualité des soins s'en ressent dans le millier d'établissements publics sur le territoire. Effet exceptionnel, 1000 médecins et cadres de santé ont publié une tribune à charge dans le quotidien Libération, c'était le 16 janvier dernier, et les tweets de soignants excédés s'accumulent sur hashtag Balance ton hosto. L'hôpital à bout de souffle en France, grand reportage, signé Ariane Gaffur.
Je viens voir Vincent.
Vous voulez le micro, ton masque ?
C'est Batman ?
Attends.
Arnaud, la quarantaine, est père de famille. Il habite un appartement spatieux de la banlieue ouest de Paris, à côté de l'hôpital René Huguenin, où sa mère a été hospitalisée. Elle était atteinte d'un cancer du pancréas.
Ma mère, sachant que c'était déjà son troisième diagnostiqué, n'a pas souhaité resubir un traitement lourd. Donc elle a simplement indiqué au médecin qu'elle souhaitait juste être accompagnée, mais pas être guérie. On s'est très vite aperçu que c'était pas du tout la bonne structure d'accueil dans ce cadre-là. Alors il y a effectivement des médecins antidouleurs, donc ils ont été là pour prendre en charge cette douleur physique, mais malheureusement ils n'ont pas du tout traité la douleur psychique, psychologique, surtout dans ces circonstances-là où on apprend qu'on est condamné, qu'on a peu de temps à vivre. L'accompagnement a été complètement inexistant. La psychologue est venue le dernier jour d'hospitalisation de ma mère. Ça ne servait plus à rien. Ma mère commençait à perdre l'usage de ses membres, donc difficulté à se déplacer, et donc le personnel soignant ne comprenait pas. Ils l'ont plusieurs fois laissé tomber, plusieurs fois enfermé. Une fois, ils l'ont déplacé dans les toilettes. Ils l'ont laissé, ils ont éteint la lumière, ils sont partis.
Et vous avez constaté ça ou votre mère vous l'a
dit? Oui. Ça, c'est un des exemples, mais il y en a des dizaines.
La mère d'Arnaud a été transférée dans une petite structure privée où elle est décédée en décembre dans des conditions plus humaines. L'expérience qu'a connue la mère d'Arnaud dans un hôpital public n'est pas un cas isolé. Sans que cela n'excuse de telles dérives, les personnels soignants déplorent la dégradation de leurs conditions de travail et de la qualité des soins.
Oui, j'arrive. On va lancer la 3.
Christine, infirmière, 14 ans d'expérience dans un service de réanimation. En ce moment, le métier est devenu plus compliqué qu'à mes débuts. L'absentéisme fait que, on est souvent rappelé par l'encadrement, le jour, la nuit, sur nos repos. On peut être déplacé à tout moment dans un autre service. En médecine, en gériatrie, le matin, et puis l'après-midi, revenir dans le service. Comment on peut prendre des patients en gériatrie ou quand on ne fait pas partie du service? Ce sont des patients qui ont certaines pathologies qui font qu'il faut avoir quand même une certaine connaissance qui ne sont absolument pas transmises, ou en tout cas on a peu de temps pour acquérir les compétences. On essaye au mieux, mais c'est vrai que quelquefois on se trouve coincé et donc on peut faire des soins qui vont à l'encontre des besoins ou en tout cas des attentes des patients et des familles dans ce genre de service par exemple.
C'est mieux ou c'est pas mieux?
Un petit peu mieux. C'est le mal du grand.
Ça peut prendre un certain temps.
Nous sommes maintenant dans le service d'urgence du groupe hospitalier de Creil et de Senlis, à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris. 60 000 patients sont accueillis chaque année.
Encore 2-3 petits jours sur le brancard.
Dans le couloir encombré, des patients alités attendent des soins. Le chef de service en blouse blanche supervise. Loïc Penn est aussi délégué CGT.
Qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur, que vous avez fait sortir?
C'est une douleur musculaire, en fait, assez banale. Mais sauf que, rendez-vous chez le médecin traitant, pas possible. Donc, il vient aux urgences.
Souvent, on n'a pas assez de place dans nos services d'urgence pour accueillir les patients. Je crée ces 40 000 passages et 4 box de médecine. Il est évident que c'est insuffisant. Non seulement c'est très inhumain d'accueillir les gens comme ça, de la promiscuité, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. On n'arrête pas de fermer des lits partout. Partout, on ferme des places d'hospitalisation complètes. On nous explique qu'il y a un grand virage ambulatoire à prendre. Donc on peut le faire, en effet, et il y a des pathologies qui s'y prêtent. On vient le matin, on a le soin requis dans la journée, on sort le soir. Voilà, c'est ça l'ambulatoire. Sauf que penser que le grand virage ambulatoire va régler le problème, non. On a de plus en plus de patients âgés polypathologiques, l'ambulatoire est particulièrement inadapté à ces gens-là, parce que bah, après, il faut retourner à la maison. Si les gens sont tout seuls, comment font-ils? Enfin voilà. Résultat des courses, nous, on les voit revenir aux urgences, parce qu'en effet, bah, c'est pas possible à la maison.
Le bureau de Loïc Penn à côté des urgences, un petit local réduit au strict minimum. Sur le mur, une photo symbolisant pour ce médecin l'état de santé de l'hôpital public. Une tirelire en forme de cochon dénutri.
Notre hôpital, il est un peu à l'image de tous les hôpitaux français, c'est-à-dire en grave difficulté. Hein. On est coincé entre deux problématiques, c'est-à-dire l'insuffisance du nombre de médecins, ça c'est le problème du numerus clausus, hein, qui devrait, à mon sens, être définitivement abandonné. Et puis, l'autre mâchoire de la tenaille, elle est financière, puisqu'on réduit de plus en plus les dépenses remboursées de santé. Et du coup, bah, on nous met en difficulté pour notre investissement, notre recrutement, notre capacité à avoir des locaux décents, enfin, à peu près tout, quoi.
La psychologue de l'hôpital va au contact des patients et parfois aussi de collègues au bout du rouleau. Christine Delis.
Quand on interroge nos collègues, quand on parle avec eux, il n'y a pas une journée sans qu'on parle de la dégradation de nos conditions de travail et notre souffrance au travail. Et ça, ça n'existait pas avant. Mes collègues aides-soignantes et aides-soignants, parce qu'on a quelques hommes, parlent en permanence de leur difficulté à pouvoir faire leur travail correctement, d'avoir assez de temps, assez de bras pour s'occuper des patients, faire les toilettes comme il faut. Il y a vraiment cette frustration de ne plus pouvoir faire son travail correctement auprès du patient.
Et Christine Delis n'est pas mieux lotie que ses collègues.
On n'a pas de bureau dédié, donc je me promène en permanence pour trouver un espace pour pouvoir parler avec mes patients. Les psychologues ne sont pas la priorité des établissements. On n'est pas assez nombreux pour pouvoir répondre aux besoins de ces patients. Donc on doit prioriser, on doit choisir. Plusieurs fois, j'ai dit non, je ne peux pas y aller. Pour pouvoir prendre en charge correctement un patient, eh bien, il y en a un autre que je n'ai pas pris en charge. Pour éviter de faire simplement du sparadrap ici et là. Ce n'est pas du tout satisfaisant.
Monsieur, je vous pique. On y va ? Allez, je vous pique. Super, super, c'est fini.
Ce patient âgé a fait une mauvaise chute. Marie, infirmière, lui prodigue les premiers soins dans le couloir des urgences. Elle est venue en renfort.
J'aide mon collègue qui est sur le secteur de la médecine, donc c'est vrai qu'à deux, c'est plus rapide. Seul à gérer les urgences, les médecins qui ont vu des patients et qu'on doit bilanter, perfuser, les familles qui nous sollicitent, c'est pas facile.
Mais vous aimez votre métier quand même, il n'y a pas de moment où vous dites j'en ai marre.
Jamais. Moi, je continue à aimer ce que je fais. La diversité de la population, des soins, chaque jour c'est différent. C'est une vocation que j'ai depuis petite et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer tous, j'aime toujours autant mon métier.
Bonjour.
Accueil en fanfare chez Maëlle en présence de sa mère Christine et d'Oscar, plutôt joueur. Maëlle, déjà 1m76, à 14 ans, se remet tout juste d'un traumatisme crânien et d'un passage express aux urgences d'un hôpital d'Île-de-France. Maëlle, tu racontais que tu étais en trottinette, hein, et que tu es tombée. Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai essayé une figure que je pensais maîtriser et je me suis raté sur la réception. J'ai essayé d'amortir avec mes jambes et avec mes mains, mais la tête a cogné. Et puis l'erreur, c'était que je n'avais pas de casque. Et donc j'ai entendu un bruit sourd et puis tout se mettait à bouger dans ma tête et je sentais plus mes dents. J'étais avec mes amis et puis du coup ensuite on a pris la décision d'appeler les pompiers. Donc ils sont arrivés très rapidement.
Donc tu es arrivé aux urgences en fait ?
Oui, aux urgences pédiatriques à Amboise-Paris. Au début, ça va, enfin, j'étais pas très stressé. Et à la fin, quand j'étais arrivé dans l'hôpital, j'avais de l'appréhension, en fait, on va dire. Surtout parce que le médecin, enfin, il était venu et il était reparti, mais je le voyais plus revenir. On avait l'impression qu'il prenait pas ce cas au sérieux, en fait.
Ce qui me frappe en France, c'est que quand vous arrivez dans un hôpital, vous avez l'impression d'être un numéro. Et vous n'êtes plus un être humain. Je n'ai à aucun moment le souvenir d'avoir vécu ça à l'étranger. Même la dernière expatriation que nous avons eue à Tripoli, en Libye, on m'a toujours expliqué pourquoi j'attendais, ce que j'avais. Je me souviens d'un cas dramatique où j'ai accompagné une de mes collègues qui était en train de faire une fausse couche. On était dans des urgences également, l'a immédiatement accompagnée. Il y avait une personne qui lui tenait la main. À aucun moment, elle n'a été laissée seule. Et ce qui nous a quand même frappé dans le cas de Maëlle, surtout pour notre pays qui est la France, un pays développé, de voir des urgences pédiatriques dans un tel état de délabrement, on a été franchement choqués par l'ensemble.
Fait rarissime dans le monde de la santé, 1000 médecins sont montés au créneau pour dénoncer les dégradations de l'hôpital public. Ils ont publié en janvier une tribune à charge dans le quotidien Libération.
Encensé,
Le professeur Didier Dreyfus est un des signataires. Il dirige le service réanimation et soins intensifs de l'hôpital Louis Mourier à Colombes, près de Paris.
Comme c'est expliqué dans la tribune, on va droit dans le mur, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui sont assez catastrophiques à l'hôpital. Alors, toutes ne sont pas nécessairement dans la tribune, qui se consacrait beaucoup à la fameuse tarification à l'activité, qui a peut-être certains bons côtés, mais qui en a beaucoup de très mauvais. Et puis, aussi, j'ai signé pour des raisons en rapport avec le malaise que l'on a pour beaucoup d'entre nous à l'hôpital, notamment depuis cette fameuse loi dite HPST, Hôpital Patient Santé Territoire. Elle a maintenant plus de 10 ans. Elle était destinée à ce qu'il y ait un patron unique à l'hôpital et on allait voir ce qu'on allait voir, tout irait mieux. Ça va de mal en pis. Bien évidemment, beaucoup de directeurs font extrêmement bien leur travail, je leur rends hommage. Ils ne sont sûrement pas à mettre tous dans le même jugement et j'ai énormément d'estime pour un certain nombre. Mais disons que cette loi leur donne un pouvoir gigantesque dont certains font un usage tout à fait contestable.
Les directeurs doivent gérer le budget de leur hôpital comme une entreprise. Leurs ressources dépendent principalement du nombre et de la nature des actes médicaux. On appelle cela la T2A, la tarification à l'activité. On retrouve le docteur Loïc Penn dans son bureau à l'hôpital de Creil.
Le principe est simple, hein. On donne un coût à chaque acte. Il y a des chiffres fantaisistes, mais pour comprendre, hein. Une appendicite, 1000 euros, pour l'opération à cœur ouvert, on va très loin. Donc on donne un prix à chaque acte, et donc on finance là-dessus. Donc on a tendance, pour gagner de l'argent, à multiplier les actes, et par contre, on ne finance pas tout un tas de choses, du coup. Tout ce qui est la relation humaine, le temps interrogatoire, la psychiatrie, tout ça n'est pas possible à quantifier exactement en T2A. Et puis après, on constate que certains patients qui ont des pathologies valorisées en T2A deviennent rentables, et d'autres, finalement, ne rapportent pas et deviennent non rentables. Sur la T2A, il y avait un exemple qui avait été donné par le professeur Grimaldi, le diabétologue, un monsieur qui est souvent assez pertinent dans ses façons d'exprimer les choses. Il avait dit, voilà, si je soigne un pied diabétique dans mon service, c'est long et c'est coûteux. Par contre, si je le fais couper, c'est le jackpot. Alors, après, il posait une question simple. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le patient? Garder son pied ou pas? Voilà, c'était brutal, mais au moins, ça faisait comprendre l'aberration du système.
Qu'en pense le directeur de l'établissement? Rendez-vous dans son bureau dans un bâtiment vétuste dont la gouttière fuit. Un contraste saisissant avec le bâtiment principal, complètement rénové. Didier Saada.
La contrainte financière qui pèse sur les hôpitaux est colossale. Elle peut se comprendre d'une certaine manière. On demande aux hôpitaux non pas d'être rentables, quand on voit ce qu'on dit, mais d'être rationnels dans les dépenses. Mais la contrainte est devenue excessive. Et on est en permanence dans la quadrature du cercle. Cet étau-là nécessiterait d'être apaisé parce que c'est au quotidien très difficile.
Est-ce que vous avez un exemple de cette contrainte financière dont vous parlez?
Bien, lorsque les tarifs qui nous sont donnés en fonction de l'activité sont en baisse constante, que par contre les dépenses, par diverses mesures qui sont prises, connaissent une hausse incontournable, bien, vous êtes dans un effet de ciseau. Et ça crée du déficit, même pour les plus vertueux. Le doublement des gardes, parce qu'on a deux sites ici, par exemple, c'est une dépense colossale. Quand vous manquez de médecins, vous recourez à l'intérim. Et l'intérim, c'est extrêmement cher. Voilà des exemples, si vous voulez, de difficultés auxquelles on est confronté au quotidien.
Le fonctionnement des hôpitaux est un système complexe, confirme Claude Le Pen. Il est économiste, spécialiste de la santé à l'Université Paris-Dauphine.
Il faut savoir que les hôpitaux sont financés sur un plan individuel. Chaque établissement reçoit une allocation budgétaire qui correspond au nombre de cas qu'il a traités, multiplié par le tarif attaché à chaque cas. Mais au-dessus de chaque hôpital, il y a une enveloppe nationale qui doit être respectée. Et cette enveloppe, fixée par le Parlement, ne peut pas augmenter de plus de 2% chaque année. On se retrouve donc devant le paradoxe suivant. Chaque hôpital est poussé à faire de l'activité pour augmenter ses recettes, augmenter son chiffre d'affaires. Mais en augmentant son chiffre d'affaires, il contribue à faire diminuer les tarifs de l'ensemble des prestations, de l'ensemble des hôpitaux. C'est un processus assez pervers.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le reconnaît. L'hôpital est arrivé au bout d'un système et il faut le réformer, tout en économisant l'équivalent de sa dette, 1,5 milliard d'euros. Parmi les pistes envisagées, la chasse aux actes médicaux inutiles. 1 sur 3 le serait. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Bah, un exemple concret, c'est des radios que l'on refait quand vous arrivez à l'hôpital parce que vous les avez fait en ville, mais le dossier n'est pas transmis ou le patient ne les amène pas avec lui, donc l'hôpital est refait. C'est pareil pour les examens de biologie, mais c'est parfois des opérations qu'on pousse un peu. On pousse la cataracte, on pousse la pose d'un stent. Bref, aujourd'hui, la preuve n'est plus à faire que si on régule un peu mieux le système de santé, il y a des gisements d'économies par milliards. Tous ces sujets-là, il faut les prendre à bras-le-corps parce que à force de ne rien faire et de repousser année après année les réformes de fond, bah, on voit qu'aujourd'hui, ça craque.
Il est question aussi de poursuivre le regroupement des établissements. 891 structures ont fusionné en 135 groupements hospitaliers de territoire suite à une loi de 2016.
Ce mouvement de regroupement, ça veut dire faire travailler ensemble, en réseau, des établissements publics sur un même territoire. Un des grands problèmes aujourd'hui de l'hôpital, c'est le recrutement de médecins. 25% de praticiens hospitaliers sont vacants. Donc, pour attirer des médecins, il faut construire d'autres modes de pratique. Puis, tous les hôpitaux ne peuvent pas offrir toutes les spécialités. Et donc, il faut travailler ensemble pour améliorer l'offre de soins.
Ces regroupements impliquent toutefois le transfert de services entiers dans un autre établissement. À Creil, par exemple, la maternité va bientôt fermer. Autre piste pour pallier au manque de spécialistes, la médecine à distance. Exemple à l'hôpital Sainte-Anne à Paris avec Prometed, un programme de téléconsultation pour enfants et adolescents autistes. Catherine Doyen, chef du service psychiatrique.
Vous voyez, c'est assez simple, hein. J'ai un grand écran et une caméra qui me permet de voir les personnes en téléconsultation dans les centres où ils sont accueillis. Il est important d'avoir une bonne source de son pour que ça n'interfère pas, bien sûr, avec les entretiens psychiatriques. Et c'est sécurisé.
C'est l'aspect sécurisé, vous diriez, qui est assez innovateur.
C'est l'aspect sécurisé et c'est l'aspect aussi où on peut échanger des documents rapidement. Et surtout, ça permet d'être implanté dans des structures médico-sociales qui ne disposent pas de médecins.
Comment est-ce qu'on arrive à humaniser, disons, quelque chose d'un peu technologique?
Effectivement, quand on fait de la télémédecine, il faut avoir intérêt être souriant, faire attention à ses expressions, ne pas se laisser aller à souffler ou des choses comme ça. Donc ça demande beaucoup de contrôle, mais ça permet aussi que les familles se sentent bien dans l'environnement qu'ils connaissent. Ils n'ont pas eu déjà à faire le trajet. Ça peut être très éprouvant pour les enfants avec autisme qui ne supportent pas les stimulations sensorielles des transports, le toucher des autres, le bruit, la lumière, etc. Donc ils sont plus paisibles. Et les parents aussi sont plus détendus.
L'hôpital public en France est à la pointe dans de nombreux domaines, les nouvelles technologies, la recherche, mais pas seulement. Le professeur Didier Dreyfus, chef du service de réanimation de l'hôpital Louis Mourier à Colombes.
Eh bien, les forces de l'hôpital public, d'abord, c'est que c'est un vrai service public qui fonctionne 24 heures sur 24, et même dans des conditions épouvantables. Prenons par exemple les horribles attentats terroristes. Eh bien, on n'a pas eu besoin de directeurs pour se mobiliser. Ce sont les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, les réanimateurs qui d'eux-mêmes, spontanément, sont revenus. Et ça, le public le sait. Le public sait qu'il peut venir à 2h du matin aux urgences, il va être vu. Alors, c'est vrai qu'il y a des urgences qui marchent mieux que d'autres qui marchent moins bien, mais globalement, on voit bien à quel point c'est apprécié. Mais je dois dire que, de temps en temps, c'est un petit peu déprimant de voir tout ce que l'on fait, et pour la santé des patients, et pour la recherche, et le peu de reconnaissance que l'on a de l'institution hospitalière.
Je suis Jacques, j'ai passé à peu près un mois et demi en soins intensifs à l'hôpital Cochin à Paris. J'ai eu une maladie rare, il y a moins d'une centaine de nouveaux cas par an. C'est une aplasie médulaire idiopathique. Pour faire simple, la moelle osseuse arrête de fonctionner et c'est une maladie auto-immune qui fait que je n'avais plus ni globules blancs, ni globules rouges, ni plaquettes. L'hôpital Cochin m'a contacté à la suite des examens que j'avais pu faire à l'hôpital Georges Pompidou qui avait détecté la maladie. Ils m'ont contacté puisqu'ils font partie des hôpitaux pilotes en France sur cette maladie et ils sont très bien équipés en chambres stériles. J'ai été en face de gens très humains, peut-être parce que je suis resté longtemps, peut-être parce que j'ai eu beaucoup de complications qui font qu'il y a eu un attachement qui s'est fait, malgré que le personnel tournait régulièrement, justement pour éviter peut-être cet attachement auprès des gens, puisque dans le service dans lequel j'étais, il y avait quand même beaucoup de gens dont l'issue a été fatale. J'ai bénéficié d'un service top qualité et rencontré des gens hyper compétents qui, bien que travaillant dans des environnements très stressants, sont restés humbles, mais cherchaient avant tout à guérir les patients. Et c'est une très forte leçon de vie, et belle leçon de vie.
L'hôpital public à bout de souffle, un reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Pierre Chaffanjon.